Angle mort, mardi 7 avril. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on change les idées un peu, puis je vous parle de vélo parce que ça va être ma première journée de vélo. Et je suis curieux de savoir parmi vous qui m'écrivez, c'est toujours le fun d'avoir vos feedbacks d'ailleurs en passant. Ma plateforme est mal faite, hein? Vous avez compris que, comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, la façon que je fonctionne, c'est que j'attends pas que les affaires soient parfaites avant de les faire. Je les fais, puis je les ajuste au fur et à mesure. C'est que ce podcast-là est rendu à plus de 160 épisodes depuis que, dans le temps que c'était Chef Boislardy. C'est que quelqu'un qui le découvre, il peut reculer en arrière, puis il y a du jus à mort, puis il y a bien des affaires. Sauf que ce que je trouve plate, c'est que j'ai pas une plateforme qui permet les commentaires. T'sais, on peut pas, il y a nulle part, même sur Balado Québec, il y a rien. Fait que, je reçois plein de messages avec qui je jase, je réponds à tout le monde. Mais, tu sais, c'est plate parce que c'est one-on-one, c'est poche. Tu sais, quand tu lis un commentaire, ça peut te donner le goût d'en faire un autre. Je corrigerai ça en temps et lieu. À moins que je mette systématiquement mes épisodes sur ma page Facebook. Je pourrais peut-être essayer ça. C'est parce que des fois, je me dis un audio sur une page Facebook, quand tu vois ça passer, ça te tente-tu de... On verra. Bref, ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle de vélo parce que... juste parce que ça me tente qu'on parle d'autre chose que le virus... Puis parce que avec le beau temps qui arrive, le confinement va être beaucoup moins lourd pour ceux qui bougent un peu, qui font du sport, puis notamment pour ceux qui font du vélo, parce que c'est encore plus safe que de marcher. Moi, je marche tous les jours ou presque, à moins qu'il fasse vraiment pas beau. La semaine passée, entre autres, il y a eu deux journées extrêmement poches où il pleuvait, il ventait, tu sais, je suis comme, bon. Ça fait que ça a été une semaine où j'ai pas bougé beaucoup, mais la semaine d'avant, j'ai marché quasiment tous les jours avec Dumpack. Avec Dominique Paquette, puis des fois même je fais un combo, là. En tout cas, j'entends faire un combo. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller marcher, puis après ça, vu qu'il annonce plus chaud vers la fin de la journée, je vais aller faire ma première ride de vélo. Moi, vois-tu, au début, quand j'ai commencé à faire, mettons, parlons sport en général, là. Quand j'ai commencé à faire du sport, c'était quand j'étais très jeune ou comme tous les jeunes de mon quartier à Charlebourg, on jouait au hockey l'hiver et au baseball l'été. Sauf que j'aimais pas ça. J'aimais pas les sports d'équipe. J'ai jamais aimé ça, les sports d'équipe. Sauf le soccer. J'y viendrai. Ça fait qu'à cet âge-là, je me souviens, j'ai fait comme 3 années pee-wee, même pas bantam. Là. Tu sais, dans ces années-là, on doit avoir 8, 9, 10 ans, je suppose. Puis l'hiver, ça m'écœurait, faisait froid, j'aimais pas ça. L'été, il faisait chaud. J'étais pas un tripeux de ces sports-là. Puis j'ai arrêté, j'étais plus sportif. Donc quand j'étais jeune, j'étais pas sportif. Puis j'ai recommencé en secondaire 3, quand là j'ai joué au soccer, à Charlebourg, avec entre autres mon voisin, qui était un Chilien, donc qui avait pas pire ça dans le sang, là, tu sais, qui était vraiment très très bon, puis qui jouait depuis qu'il était jeune. Puis c'était, vous vous en doutez, là, on parle d'il y a 35 ans, à peu près, 15, 25, 30, ouais, il y a comme 35, ça fait longtemps que... où j'étais dans les précurseurs du soccer, là, parce qu'aujourd'hui, ça a quasiment, depuis déjà plusieurs années, ça a torché quasiment les autres sports, là, notamment le baseball. Mais à l'époque, je veux dire, il y avait un club. Tu sais, mettons, là, dans un club, pour toute une ville comme Charlebourg, ben on était 20 qui jouaient. Puis après ça, il y en avait 20 l'année d'avant, puis 20 l'année d'après. Tu sais, c'était pas énorme. Là. C'était vraiment les balbutiements, si tu veux. Mais c'était bien organisé. Puis la première année, les deux années que j'ai joué fort, c'était des années où on était bantam, donc secondaire 3, 15 ans à peu près. Puis j'avais un coach qui s'appelait Pinchot, Yves Pinchot. Un Français. Puis c'est là que tu vois que le coaching, ça fait toute la différence parce que moi, j'étais gardien. Puis l'année 1 de notre équipe, on était les plus poches de la ligue. Puis l'année 2, on était les meilleurs. Dans d'un an. Puis je vous le dis, c'est juste parce qu'on était bien coachés. On était réellement bien coachés. Il était bon, ce gars-là. Il était bon. C'était un Français... Et je ne sais pas ce qu'il faisait. On ne posait pas de questions trop perso. Là. C'était notre coach. Puis il était bon. Puis il nous mettait à notre affaire. Puis moi, il m'avait vraiment montré comment être un gardien avec les techniques de base. Il nous avait montré un paquet de jeux, comment jouer, etc. Puis moi, sérieusement, j'étais très bon à ça. J'avais le physique de l'emploi. J'étais long. J'étais grand. Puis je me projetais. Puis j'étais rapide. J'étais très, très, très rapide. Quand j'avais 15 ans, j'étais tout le temps le plus rapide partout où j'allais. C'était toujours moi qui étais le sprinter numéro un. Je torchais, là. J'étais vraiment hyper fast. Puis donc, ça m'aidait parce que si j'avais des sorties à faire rapides pour contrer un échappé ou peu importe, fait que j'étais vraiment pas mal. L'an 2, j'étais pas mal le meilleur gardien de la ligue. Puis on avait gagné un tournoi intercité à Thetford, je me souviens. J'avais fait un arrêt incroyable sur un penalty, une affaire de fou. Là. Fait que j'étais vraiment dans le game. Par contre, tu vois que c'est comme à l'école. T'sais, mettons que tu es très fort en maths en secondaire 3. Ils te mettent donc en secondaire 4 dans un groupe fort, puis là, t'as coûté poche pour les forts, puis t'es fort pour les poches. Ben moi, c'était ça. C'est-à-dire que quand j'étais midget, c'était pas bantam, c'était midget, exactement. Quand j'étais midget, niveau intercité, j'étais vraiment le meilleur gardien, puis j'étais très hot. Puis là, je me suis dit, hey, je vais m'essayer junior, parce que l'étape d'après, c'était junior, puis on avait fait une pratique avec des juniors. Qui, tu sais, il y a une différence entre 15, puis 16, puis 17 ans. Juste physiquement, il commence à avoir des grosses différences. Puis je me souviens que j'ai fait une pratique avec eux autres, puis j'ai fait « Hey man, je suis pas à niveau, papa en tout. » C'était, tu sentais à quel point, tout à coup, niveau junior, qui était secondaire 5, cégep, là, dans ce coin-là, je pense que c'était comme secondaire 5, tu voyais la différence de calibre, puis que là, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là, ça fait que moi, je faisais plus partie. Ça fait que j'étais très bon midget, puis tu sais, je dis ça, j'étais pas de calibre. Peut-être qu'il aurait fallu que je travaille une coche de plus puis que j'ai conclu trop vite. Je me souviens juste de la fameuse pratique où j'étais gardien puis les ballons rentraient. Je pensais même pas que ça pouvait rentrer de même. Un ballon de soccer. À un moment donné, j'ai fait coudonc, je suis au baseball. Moi, je suis catcher au baseball ou bien je suis gardien. C'était un autre calibre, tu sais. Fait que là, ça, j'ai joué donc j'ai joué au soccer jusqu'à secondaire 4, si je me souviens bien. Puis là, il s'est pas passé grand-chose à nouveau. Les années d'après. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, j'étais pas un couch potato, j'ai jamais été le gars devant ces jeux vidéo qui fait rien, qui sort pas. J'étais très actif dehors, je faisais du vélo, je me souviens que secondaire 1, je faisais beaucoup de skateboard, plein. J'étais tout le temps là-dessus, etc. Mais tu sais, j'étais pas dans des sports organisés. Puis où vraiment mon côté très actif a embarqué, c'est quand j'étais en première année de droit où j'ai commencé à m'entraîner au gym. Alors, je m'entraînais dans un gym qui s'appelle le Privilège Gym. Je dis qu'il s'appelle parce que ça, c'est vraiment une histoire incroyable. Ça appartenait à Robert Quinn et José Gingras, qui étaient un couple dans la vie, puis qui étaient les champions provinciaux de bodybuilding en couple. Parce que tu peux faire de l'individuel homme-femme, puis tu peux faire comme au tennis, dans le fond, tu peux te présenter à deux gars-filles. Fait qu'eux autres étaient de très haut calibre individuellement. Josée, entre autres, c'était une powerlifter. Elle faisait des charges hallucinantes, puis elle avait comme 25 ans, là, peut-être même moins, quand je l'ai connue. Aujourd'hui, ils sont un peu plus vieux que moi, là, tu sais. Fait que moi, je suis arrivé à 20, eux autres étaient, mettons, mi-vingtaine, fin vingtaine. Tu sais, si j'extrapole un peu. Et puis, il avait ouvert un gym à Charlebourg, dans le sous-sol d'une pharmacie, qui aujourd'hui est le Shaker de Charlebourg. Donc, pour ceux qui sont de la région de Québec, ça vous dit de quoi? Là, c'est coin Henri Bourassa, puis Louis XIV, l'ancienne 80e rue, que, dans mon temps. Puis juste au bord de la rue de ça, de ce complexe-là, qui était une cage au sport avant, il y a encore, je pense, un petit complexe où il y a une pharmacie, ou c'est peut-être là qu'il y a un club Vidéotron maintenant, mais bref, dans le sous-sol, tu passais par en arrière, et puis t'avais le Privilège Gym, un petit gym tout croche. C'est vraiment ce qu'on appelle un hard gym. Là. On n'était pas dans le Nautilus avec les belles machines et les miroirs. T'sais, oui, il y avait des miroirs, là, mais c'était vraiment un gym de col bleu à côté. Là. Puis quand tu allais là, d'abord, il n'y avait aucune pub. C'était vraiment juste du bouche à oreille. Moi, c'est mon chum Michaud qui s'entraînait déjà là, qui m'a dit, si tu veux, viens voir ça. T'sais, c'est un petit gym, mais il y a tout, puis c'est motivant. C'est vrai que c'est motivant quand tu commences, tu veux. Tu vois des gros gars qui lèvent des grosses charges. C'est comme, tu fais « OK ». On va s'entraîner pour vrai, là, tu sais. Puis là, tu rencontrais le boss, Robert Quinn, puis il te donnait une clé, puis tu rentrais 24 heures sur 24. Ça se cassait pas la tête. C'était... Il y avait un petit vestiaire de rien, tu prenais ta douche. Il y avait un lit de bronzage, je me souviens de ça. Puis c'était un sous-sol de commerce, tu sais, avec une porte d'entrée, bing-bang. Tu descendais l'escalier, tu rentrais. Puis c'est là que j'ai commencé rapidement à m'entraîner puis à m'entraîner fort. Je faisais des grosses charges. Tout le long de mon université, j'ai été là. J'ai jamais été dans un autre gym. On dirait que tu t'attaches à ta gang, tu t'attaches au proprio, au coach, etc. C'est une galerie de personnages. Hein? Un gym, c'est comme fou. Là. Les gens viennent de partout. C'était vraiment intéressant. Puis là, ça, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté d'aller au gym, évidemment, sauf là. Mais ça a tout le temps été une activité régulière. Il y a un été, il y a pas l'été passé, l'autre avant. Donc, quand j'ai commencé à faire du vélo, au lieu du roller, je vous raconterai. Cet été-là, j'ai fait presque pas de gym parce que je faisais beaucoup, beaucoup de vélo. Puis j'ai pogné de quoi, tu sais. Puis je me suis dit, c'est l'été, let's go, on refera du gym autrement, puis c'est correct. Mais ça a paru, tu sais. J'ai vraiment fondu, j'ai perdu de la masse musculaire. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu à 50, là. Fait que c'est certain que le cycle fait que tu perds de la masse musculaire en vieillissant. C'est un peu inévitable, à moins que tu sois un freak de gym, ce que je suis pas. Mais si en plus tu rajoutes du cardio comme un fou furieux, puis que tu fais des kilomètres et des kilomètres de vélo, comme c'était mon cas, ben là, tu fondais comme une coche de plus. Fait que dans un monde idéal, quand tu rajoutes une activité de cardio, ben tu gardes ton activité de gym. Puis c'est donc là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis au-delà de l'entraînement, j'ai commencé à m'intéresser aussi à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que j'étais abonné à des revues comme Muscle and Fitness puis des choses comme ça. Puis tu apprenais vraiment... C'est le corps humain, hein? Ça fait que tu apprends comment ça marche, la mécanique du corps. Tu apprends comment ça marche, l'idée de toute la musculature. Tu apprends énormément sur la nutrition, les suppléments. Tu deviens, inévitablement, si ça t'intéresse, la documentation est là, puis tu deviens un expert de tout ça. Mine de rien, là, tu te rends compte qu'à un moment donné, les informations que tu prends ailleurs finissent par se recouper. Puis tu apprends sur c'est quoi le rôle de la protéine, les acides aminés, comment ça fonctionne, les suppléments. Moi, ça m'a toujours intéressé. C'est comme les bars. Moi, je suis un client de bar, pas vraiment de resto, mais plus de bar, puis de 5 à 7. Pas de bar discothèque, là, on se comprend que j'ai fait mon temps, mais de bar, comme au Midway où je vais. Tu sais, des bars de, entre guillemets, quartier. Puis j'ai toujours adoré le domaine de la restauration. Ça m'intéresse pas vraiment d'y être relié vraiment, mais j'aime cette business-là. Tu sais, c'est l'accueil. À quelque part, c'est pas si loin de mon métier, qui est tu sais, de la com, interagir avec des gens. Je pense que c'est tout un peu le même univers, le tourisme. Tu sais, c'est comme une grande boîte, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Puis quand tu t'intéresses à des domaines, ça peut être des industries ou ça peut être un champ de n'importe quoi, bien, tu sais, surtout avec Internet, tu peux approfondir ça, puis sans être relié par ton métier là-dedans, tu peux le connaître. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est arrivé avec l'entraînement, c'est qu'il y a plein d'affaires que j'ai jamais lâchées. J'ai toujours aimé ça, l'idée de la nutrition, la diététique, c'est quoi bien manger, qu'est-ce qui fait qu'on engraisse, c'est quoi les vraies mécaniques, qu'est-ce qui fait qu'on maigrit, qu'est-ce qui fait qu'un muscle se nourrit, de quoi. C'est vraiment intéressant, c'est très, très intéressant. Ça fait que c'est parti de là, c'est à l'âge de 21 ans, pour être précis, je ne me trompe pas, le 20-21, là, dans ces eaux-là, première année de droit, où est-ce que là, via l'entraînement au Privilège Gym. Et by the way, le Privilège Gym, après ça, a déménagé à Beauport. Puis Robert et José ont acheté une maison, ils ont fait ça dans leur sol encore. Puis là, après ça, ça grossit. Ils ont acheté la maison en face pour vivre parce que tout le complexe qui était au début le sous-sol est devenu un deux étages de gym. Je suis allé les voir il y a à peu près un an et quelques avec Michaud, justement, qui lui est encore à Québec, mais qui ne s'entraîne plus là. Puis, je veux dire, c'était hâte de voir que le truc a commencé dans un sous-sol. Ça fait penser à un site Internet, hein? Moi, mon classeur, ça a commencé entre guillemets dans un sous-sol, en voulant dire que c'était Dom, Seb puis Ricardo, tu sais, qui étaient des jeunes à l'école, qui étaient venus me voir quand je travaillais chez Spectra puis que j'étais à TV. Puis on a lancé mon classeur. Puis, tu sais, ça s'est fait comme tous les projets web qui ont le moindrement de succès. J'appelle ça, ça se fait soit dans le garage ou en coton ouaté, là, tu sais. Ça part tout le temps. Puis, tu vois, ce projet de gym-là, il a vraiment parti de même, l'équivalent d'un garage dans un petit sous-sol. Puis aujourd'hui, ça a roulé, puis c'est bien le fun. Fait que, donc, moi, à 21 ans, je commence l'entraînement. Puis là, bien, ça me lâche jamais. Puis ça devient mon activité physique principale. Puis en parallèle de ça, je faisais, quand j'étais au secondaire notamment, je faisais beaucoup de vélo. Le dimanche, je faisais ce que j'appelle mes visites paroissiales. C'est je partais en vélo, puis j'allais voir tous mes amis partout. Charlebourg, je descendais, on restait à Charlebourg dans le temps. Puis je montais en ville, donc à Québec, c'est bien de la côte. Là. Je passais par Limoilou, après ça, je montais Côte d'Abraham. J'allais me promener ces plaines d'Abraham, quartier, je revenais. Puis là, c'est ça que je faisais. Le dimanche, j'allais voir le monde. On restait chez nos parents dans le temps, tu sais. Ça fait qu'il y avait du vélo, mais c'était pas comme une activité. C'était plus... C'était un peu le moyen de transport quand t'as pas d'auto, tu sais, puis quand t'as pas ton permis. C'est comme un peu tout le monde. Mais au-delà de ça, je faisais une couple de rides ici et là. Puis ça m'a amené, après ça, je vous dirais... Il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai commencé à faire du roller. Et le roller, ça, j'ai été très, très, très tripeux de ça. J'en avais une paire en Floride quand j'avais mon condo là-bas. J'avais ma paire de patins ici. Et j'en faisais énormément. J'ai toujours resté dans le coin du quartier des spectacles. Ça a toujours été là-dedans. Je suis arrivé à Montréal, proche du Centre Bell. Après, je suis allé à Outremont. Puis depuis plus de 10 ans, je suis justement autour là, de ce qu'on pourrait appeler le coin Sherbrooke du parc. T'sais, là, maintenant, je suis en bas de ça, mais avant, j'ai été 10 ans de temps dans une église convertie en condo qui était du parc Jeanne-Mance, Prince-Arthur, du parc Prince-Arthur. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire du roller, puis j'ai découvert que, bon, je me rendais jusque dans le Vieux-Port. Quand les Bixi sont sortis, je mettais les patins dans le rack à Bixi, j'accotais le Bixi, puis là, après ça, je mettais mes patins, puis on partait. Puis pendant 10 ans facile, là, j'ai fait du roller, mais à haute échelle. La ride que je fais, puis que je fais encore en vélo, mais en vélo, c'est plus, je vous dirai c'est quoi la ride que je fais habituellement avec Ricardo, c'est qu'en roller, je descendais, donc, quartier des spectacles, je descendais Saint-Urbain, etc., puis je me rendais par McGill au Vieux-Port. Là, tu suis le canal Lachine, c'est magnifique. C'est vraiment très, très dur à battre, tant qu'à moi. J'ai rarement vu des places que je trouve plus fun à faire, jusqu'au phare du canal Lachine. Donc, t'es complètement rendu au bout à Lachine, où il y a un grand parc avec le phare. Et là, soit que tu reviens, ça fait 30 km, mine de rien, parce que Vieux-Port jusqu'au phare, c'est 15 km. C'est 15 km aller-retour. Ou, à la marina de Lachine, tu peux aller, justement, tu bifurques, puis là, tu longes le fleuve, parce que le canal et le fleuve se rejoignent à ce moment-là. Puis tu longes le fleuve, donc à ce moment-là, tu es à La Salle, mais tu es à Lachine pendant un bout. Après ça, tu es à La Salle, puis après ça, tu arrives à Verdun, la nouvelle plage de Verdun qu'ils ont faite. Puis tu remontes ça jusqu'au canal de Lachine, où là, tu arrives à Marché Atwater. Quand tu fais cette ride-là par le fleuve, là, tu fais 40 km, tu te rajoutes un 10. C'est que ça, c'est la ride que je faisais, règle générale, quand je partais en patin. Je faisais la longue ride habituellement, que tu faisais, bon, dépendamment de mon horaire, souvent, je pouvais y aller sur semaine, mais sinon, week-end ou peu importe. Puis tu t'arrêtes à droite, à gauche, tu peux même luncher, c'est fantastique. Et là, je suis tombé deux fois les dernières années, c'est-à-dire il y a 3 ans et il y a 4 ans, qui étaient les 2 dernières années où j'en ai fait. Je suis tombé une fois par année, puis ça fait vraiment mal. Et entre autres, la deuxième fois, ça a été le chant du cygne, comme on dit, j'ai fait « OK, là, c'est assez ». Parce que je suis tombé, et d'ailleurs, il y avait des travailleurs qui prenaient leur break juste sur le bord du canal, quand on arrive au bout, là. Puis les gars, c'était des gars de la ville qui prenaient leur break, puis ils m'ont vu sacrer le camp, là. Tu sais, j'ai comme perdu pied sur de l'interbloc, puis tabarouette, je suis tombé, tu sais. Mais je suis pas tombé en face, je suis tombé comme la jambe m'est allée vers en avant, puis je suis tombé sa hanche. Mais j'en ai eu pour 6 mois, puis je vous niaise, pas 6 mois dans le plâtre ni rien, mais 6 mois à boiter, à... ça a été vraiment comme... Tu sais, quand tu tombes sur l'asphalte, là, c'est dur, là, tu sais, c'est du ciment, il n'y a pas rien pour te supporter ni rien, c'est vraiment là, tu tombes, paf! Puis je m'étais fait vraiment mal, il a fallu que je retourne en taxi, c'était pas cool. Puis là, j'ai fait, OK, peut-être que je suis trop vieux même... pour commencer à risquer, à faire du roller comme ça. Puis, tu sais, je faisais 40 km des deux fois. Des fois, c'était pas deux fois, bien plus que ça. C'était 3-4 fois par semaine. Puis là, je trouvais que le risque commençait. Puis ça me tentait plus d'être blessé. Peut-être que ça n'a pas rapport avec l'âge, mais ça me tentait plus. Ça me tentait... J'ai fait comme... Et là, j'ai acheté un vélo. Il y a 2 ans de ça, j'ai acheté un vélo, un Garneau. Ouais, un Urbania, ça s'appelait, de Garneau. Et j'ai découvert le vélo. Ça fait drôle à dire, hein? T'sais, c'est comme j'en faisais à mort avant, mais j'ai découvert le vélo dans le sens que j'en faisais pas, je faisais que du rollerblade, du patin à roues alignées pour être en bon français. Puis le bonheur. Le bonheur. De un, tu peux aller partout. En roller, tu suis les pistes cyclables d'Atite, en ville, là, à Montréal, excuse-moi, là, c'est pas une très, très bonne idée de te promener dans les villes, surtout avec les routes qu'on a. C'est-à-dire qu'en vélo, tu vas n'importe où. Deuxièmement, tu n'as pas rien à transporter parce que quand tu pars pour 3 heures de roller, c'est sûr que tu as un sac avec tes espadrilles, comprends-tu? Donc, tu es obligé d'avoir un sac pour te promener avec des bébés. En vélo, je m'excuse, j'ai un petit sac sur le guidon dans lequel je mets tout le portefeuille, le téléphone, la patente. Puis, j'ai un cadenas, je m'arrête où je veux, je barre le vélo, je m'en claque, tu es libre comme l'air, c'est malade. Tu vas bien plus loin, par définition. Alors, ça a tous les avantages du monde. Alors, évidemment... Pour le même nombre de kilomètres, tu travailles plus en roller qu'en vélo. Parce qu'en roller, tu te laisses réellement aller pendant un bout, tandis qu'en vélo, tout à coup, tu sais, whoop, là, et t'as le vent dans le dos, puis tout est plus facile. Mais pour le reste, tu vas beaucoup plus loin, tu vois du paysage, tu vois, c'est tellement plus le fun. Et après, je me suis fait voler mon vélo l'été passé à Québec, parce que j'ai passé l'été à Québec, là, quand j'avais mon contrat de radio, entre autres, c'est moi qui animais pendant tout le mois de juillet. Fait que je restais dans le Vieux-Québec, justement, puis je me suis fait piquer. J'étais allé déjeuner, à un moment donné, je reviens, paf, il avait coupé mon cadenas de même. J'ai eu une grande leçon, là, ceux qui ont un vélo qui le barre à droite, à gauche, là, le vrai truc, que c'est vrai, quand c'est logique, mais que je pensais pas, c'est barrer toujours votre vélo, non pas caché, mais à la vue de tout le monde. Mettez-le à l'endroit le plus passant possible, personne ne va prendre la chance d'aller voler un vélo quand plein de monde te voit en train de couper un cadenas. Moi, je l'avais mis juste sur le coin, une ruelle dans le Vieux-Québec. Là. Il était sur le coin, mais il était quand même dans la ruelle. Il n'était pas sur la rue Saint-Jean. Fait que je me suis fait voler, paf, ciao, bye. Fait que j'en ai acheté un autre, qui est un... Là, j'oublie la marque, là, ça ressemble comme à Schindler ou une patente de même. Un peu mieux, mais les améliorations sont palpables. Des pédales qui sont plus confortables. Tout est meilleur sur ce vélo-là. Moi, je ne paye pas 2-3 000 $. Un vélo, en passant, là, j'ai payé 800 $ chez Demers Bicycle. Puis j'avais du service épouvantable. Une shop spécialisée, ça vaut toujours la peine. Là, à l'époque où on dit achat local, peut-être que mon vélo n'est pas un vélo québécois. Là, à ce moment-là, peut-être que je serais plus enclin à reprendre un Garneau. Mais une shop locale, plutôt qu'aller dans un Canadian Tire où le gars qui te le vend, en même temps, il est étudiant en anthropologie, il te vend des pneus, puis il dit qu'il connaît le vélo. T'sais, je sais, je l'ai fait. J'étais étudiant en sport expert. À un moment donné, je vous conterai ça. C'est épouvantable comment je vendais n'importe quoi. Il faudrait que je fasse un podcast juste sur quand j'étais vendeur. C'était spectaculaire. Fait que tout ça pour dire que j'ai fait du vélo. Je fais du vélo depuis 2 ans. J'en fais comme un déchaîné. Ma plus grande ride, c'était à Québec l'été passé. J'ai fait 75 km. J'ai découvert... je faisais déjà le long du fleuve, là, du côté Québec. Mais tu peux traverser le pont de Québec, puis après ça, tu reviens vers Lévis. Par la piste cyclable qui longe le fleuve Rive-Sud côté Lévis, c'est vraiment hot et comme neuve, tu sais. Puis il y a plein de belles maisons, puis c'est vraiment spécial. Après, je me suis rendu jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse. Je suis revenu par le traversier, puis je suis allé au Chute-Montmorency aller-retour. Tout ça, ça a fait 75 km, mais sinon, une bonne ride, c'est 50. Habituellement, je fais 50, mais avec Rick, on fait une ride ici à Montréal qui... est un petit peu en bas du 70. On fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va jusqu'au canal de la Chine, on revient par Verdun, mais là, on traverse l'île des Sœurs. Ça nous amène... Il y a un chemin là, qui nous amène, on s'en retourne vers l'ouest, vers le pont Champlain. On arrive à Candiac, où il y a une micro-écluse. Candiac, là, on revient sur la rive sud. On passe par Saint-Lambert et on remonte par le pont Jacques-Cartier. Quand on fait cette grande ride-là, là, ça fait 65 km à peu près. Puis ça paraît, là, tu sais, je veux te dire, tu l'as dans le corps. Mais tu t'entraînes vite à ça, hein? Tu le retrouves vite, puis tu t'entraînes vite. Ça fait que cette année, bien, j'aurais des objectifs peut-être de claquer une ride de 100 km. Je sais qu'il y a des cyclistes qui font ça sans trop de problèmes sur une base probablement hebdomadaire. Là. Il y en a qui partent puis qui font ça pas mal chaque week-end. Ça m'impressionne. Moi, je ne suis pas rendu à faire des 100 km comme si de rien n'était, mais j'ai le vélo pour, je pense. Je ne crois pas que ça prend un vélo de course pour autant. Je trouve ça très inconfortable, les vélos penchés. Ça fait que cette année, je verrai. Peut-être que je modifierai aussi mon parcours. Je vais voir. Mais tout ça pour dire que j'ai tout le temps fait pas mal d'exercices. J'ai toujours bougé beaucoup. Puis là, maintenant, bien, j'alterne gym. Moi, je suis abonné au Nautilus parce que le gym est bien placé au centre-ville puis tu peux aller partout. Donc, quand je vais à Québec... Il est à Place Québec aussi, donc ça donne bien. Puis ça coûte 50 par mois. Ça fait que c'est sûr que c'est plus cher que Econo Fitness, mais je trouve que ça vaut la peine. Puis c'est pas un milliard de fois plus cher. Econo Fitness, je veux bien croire que ça coûte 15-20 $. Mais tu sais, quand tu utilises ça 3-4 fois par semaine, là, franchement, de payer 50 par semaine pour All You Can Eat, je trouve ça très raisonnable. Moi, tant qu'à moi, je suis très satisfait de Nautilus en général, puis du prix qu'il charge. Ça fait mon affaire. Ça fait que c'est ça. Donc maintenant, je fais du gym, je fais du vélo. Évidemment, l'hiver, parce que j'ai un dos qui est problématique, donc il ne me pose aucune douleur, il ne m'empêche pas de faire grand-chose, mais il m'empêche de faire un mouvement. Je ne peux pas sauter, moi. Je ne peux pas courir, je ne peux pas jouer des sports de raquettes. Je ne peux pas, tu sais, faire des sauts. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donner des coups à mon dos. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire de jogging. Ça fait que l'hiver, toute la section vélo, je la remplace par rien, parce que moi, pédaler dans un gym, j'ai essayé, ça me fait capoter. Je ne suis pas capable. Ça fait que quand le beau temps reprend, comme aujourd'hui, qui est officiellement ma première sortie de vélo, ben là, c'est vraiment une autre vie qui repart. Parce que là, je peux me mettre à bouger autrement que juste aller pousser des poids. Alors, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas qui m'a écouté aujourd'hui là-dessus. On n'était pas dans du angle mort, pas en tout. Mais ça me tentait qu'on tire ailleurs parce qu'il y a des affaires, je trouve, qui sont gazantes. Puis j'ai des réflexions, des fois, qui sont un peu négatives. Je pense qu'ils sont vraies, Mais ça ne me tentait pas de tomber là-dedans. Là. Aujourd'hui, là, il y a assez de toutes sortes d'affaires qui circulent. Je vois que les gens en ont un peu assez déjà, puis je ne veux pas rajouter une couche de ça. Ça fait que demain, on reviendra peut-être dans un autre mode plus éditorial, mais aujourd'hui, c'était ça que j'avais le goût de vous jaser. Écrivez-moi comme d'habitude. Si vous pensez que c'est une bonne idée que je mette le podcast ailleurs que juste dans les plateformes actuelles, je pourrais le mettre dans ma page Facebook. Je vais le faire d'ailleurs, je vais le faire. Je vais le mettre, puis je verrai si c'est partagé un peu. Mais je ne tiens pas à ce que ce soit partagé en passant. Là. C'est pas comme genre, ah, parlez-en aux autres. Là. Moi, ceux qui découvrent ça puis qui aiment ça, ils s'abonnent avec leur téléphone, ils reçoivent des alertes, puis vous me suivez. T'sais, moi, je vous l'ai dit au tout début, là, quand même qu'on serait 10, je m'en... Je ne sais même pas combien on est précisément. Je sais, dans Balado Québec, je ne vois pas le nombre d'écoutes, mais je vois le nombre de téléchargements. J'ai aussi des statistiques pour Apple. J'en ai aucune pour Google Play. C'est que si vous m'écoutez avec Android, j'ai aucune idée combien de monde sont là. J'ai pas d'idée. C'est que je pense pas qu'il y ait d'outils actuellement qui nous permettent de savoir réellement le nombre de fois que ton podcast est fait. Je l'ai mis sur YouTube maintenant, mais t'sais, évidemment, ça va être à la longue que ça va se propager. Fait que ce bout-là, j'avoue que j'ai des croûtes à manger encore sur bien proposer mon matériel à ceux qui le veulent, sans gazer justement ceux qui le veulent pas. Si vous avez des trucs là-dessus, je vous écoute. C'est une belle journée. J'espère que vous allez aller dehors. On se reparle demain. Salut.